Amen, alléluia. Je propose qu'on applaudisse le Seigneur parce que ça, il est tellement bon. Merci à toute l'équipe Louange. Et on va poursuivre ce matin, on se réjouit beaucoup de ce culte. C'est vraiment des moments forts où plusieurs vont pouvoir témoigner. Et le titre ou le thème de ce culte ce matin, c'est « Dieu agit encore ». Il agit encore et on va pouvoir le voir vraiment au travers de témoignages de plusieurs personnes dans la vie des gens où Dieu agit encore. Il y a vraiment une puissance aussi dans le témoignage. Pour ceux qui ont suivi, vraiment, on a fait toute une saison dans les groupes ressources sur la culture de l'honneur et Thierry Juvet parlait de ces « God stories ». Ces histoires de Dieu, ces témoignages de ce que Dieu fait à gauche, à droite, dans nos vies ou dans les gens qui nous entourent. Et ça libère une atmosphère de foi, une atmosphère de vie pour qu'il agisse encore. Et ce matin, plutôt que juste entendre le témoignage de 6-7 personnes, que vous puissiez aussi capter par la foi ce qui est dit. Parce que Dieu veut agir encore et aussi dans ta vie. Parce que s'il le fait pour la personne qui va témoigner, il peut le faire pour toi aussi. Et que ce matin, on puisse se laisser toucher. On aura peut-être des temps de prière, suivant les moments aussi. Mais au-delà d'entendre et de glorifier Dieu, et je crois que des témoignages, c'est vraiment pour amener tout l'honneur à Dieu, la reconnaissance au Seigneur, mais c'est aussi pour libérer l'action de Dieu pour la suite. En remerciant pour ce qu'il a fait, ça prépare aussi pour le prochain miracle, la prochaine intervention de Dieu, le prochain exaucement. Et du coup, le prochain témoignage qui va de nouveau libérer le prochain exaucement, hein, etc., etc. On a envie d'être dans cette culture du témoignage, de rendre gloire à Dieu. Si Dieu l'a fait pour quelqu'un, il est toujours le même aujourd'hui pour le faire aussi pour ta vie, pour les situations que tu connais. Et la Bible nous encourage d'ailleurs à raconter ce que Dieu fait. À raconter ce que Dieu fait. Dans le psaume 105, il est dit « Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits ». Ses victoires, ses exploits, ce qu'il a fait, et parler de toutes ses merveilles. Et c'est ce qu'on a envie de faire ce matin, c'est de parler de toutes ses merveilles. Alors on veut vraiment se réjouir de ce que Dieu fait dans la vie des uns des autres, et qu'on puisse capter ça vraiment aussi pour nos vies. Et ce matin on va commencer, je vais donner la parole à Gabriel et Christelle, et on se réjouit vraiment de les entendre, on les encourage.
Bonjour à tous. Alors, je te laisse te présenter.
Bonjour, je m'appelle Gabrielle et j'ai 12 ans.
Qu'est-ce que tu as envie de nous raconter ce matin ?
Bah, c'était un soir où j'avais très peur, mais je ne savais pas de quoi. Très, très peur. Et bah, du coup, j'ai appelé ma maman et bah, on a prié. Elle m'a lu un verset dans la Bible que je ne connaissais pas et ça m'a beaucoup inspirée.
Et puis, est-ce que tu veux nous le lire ?
Oui. Le verset, c'est Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante.
Et puis après cela, est-ce que ça t'a aidé ?
Oui, ça m'a beaucoup apaisée et je me sentais plus tranquille pour dormir et pour le reste de la soirée et tout ça.
Voilà. Waouh, merci beaucoup. C'est tellement encourageant de voir comment Dieu agit. Et puis ce verset, il est valable pour chacun de nous. Dieu est vraiment avec nous et on n'a pas à craindre. Amen. J'invite Gabriel Gürtner à me rejoindre, qui a aussi un témoignage à partager. On se réjouit de l'entendre.
Deuxième Gabriel ou féminin ? Alors, durant le week-end de l'Ascension, avec trois autres amis de l'Église, j'ai suivi un séminaire à Launay, dans le cas organisé par Campus pour Christ, sur l'écoute de Dieu. C'est la suite de Vivre libéré. Je vous montre la brochure de Vivre libéré. Donc, c'était la suite. Alors, je ne vais pas vous donner un enseignement, et vous, simplement, je vais vous faire un petit résumé de cette brochure. Donc, écoutez la voix de Dieu, ça c'est le deuxième séminaire. Voilà, je vais simplement vous donner un petit témoignage. Nous étions invités la première matinée à nous retirer seuls pour écouter la voix de Dieu, pour nous-mêmes, avec quatre versets à choix. Et moi, j'ai choisi Éphésiens 3, 14 à 21, qui vous parle de la grandeur, hauteur, largeur, profondeur de l'amour de Dieu. Et j'ai posé la question au Seigneur, mais comment être capable de comprendre ton amour? Peux-tu, Saint-Esprit, m'aider à percevoir un peu plus de cette grandeur? Et la deuxième étape de cet exercice était de s'imaginer dans le jardin d'Éden. Alors j'y suis. L'Éternel me cherche. Il me cherche. Il m'appelle. Gabriel, où es-tu? Mais il me connaît, puisqu'il m'appelle par mon prénom. N'est-ce pas une preuve d'amour? Et Éphésiens 3, 20, que Nathan a fait allusion tout à l'heure, nous dit qu'il peut faire au-delà de ce que nous pensons et même imaginons. C'est juste incroyable. Il a répondu à ma question posée au début de ce temps. J'ai compris que ce verset, ce n'était pas par mes propres efforts que j'ai pu comprendre la grandeur infinie de son amour. Mais c'est en étant enraciné en lui que sa puissance agit en moi. C'est en étant enraciné en lui que sa puissance agit en moi et en vous. Gloire à Dieu. Nous pouvons tous être capables d'entendre le Saint-Esprit pour nous-mêmes et aussi pour les autres. Un autre jour, tout le groupe de 15 personnes était ensemble. Deux personnes écoutaient le Saint-Esprit pour une troisième. Le reste du groupe restait en silence, également à l'écoute. L'Esprit me montra une image de cette personne qui dansait et riait avec Jésus. À la fin de ce temps d'écoute, la personne bénéficiant de cette écoute, que j'appellerai Lynn, nous explique qu'à un moment donné, elle a eu une folle envie de rire. Puis elle a parlementé avec Jésus. Elle lui a dit, mais c'est vraiment pas le moment, alors que tout le groupe est en silence. Et en nous partageant cela, Lynn a éclaté de rire, ne sachant vraiment pas pourquoi. Je lui ai alors transmis l'image que le Saint-Esprit m'avait donnée pour elle, qui l'a beaucoup réjouie, et nous aussi. Tout cela pour vous expliquer que si même moi j'ai reçu une image du Saint-Esprit, nous sommes tous appelés à transmettre des paroles encourageantes et bénissantes de la part de Dieu, et pouvoir ainsi le glorifier. D'ailleurs, avec un petit groupe, nous continuons notre apprentissage pour transmettre des paroles prophétiques et louer le Seigneur ensemble.
Merci beaucoup, Gabriel. Qu'on puisse avoir cette faim, cette soif. Comme la Bible nous dit, vous pouvez tous prophétiser, on peut tous entendre Dieu. Alors il le fait par les uns, par les autres, comme ce matin ou à d'autres moments, par un message, une prédication, un témoignage, quand on lit sa parole, mais on peut tous entendre Dieu, avoir une image que Dieu nous parle personnellement. On a envie vraiment d'aller là-dedans. Merci beaucoup, c'est super, comme encouragement. Et je vais donner la parole à Élie, qui va venir maintenant nous partager aussi un témoignage. « Le 27 juin dernier, j'étais avec une dizaine d'hommes à la vallée de Joux pour encourager un jeune de 17 ans à devenir un homme. Et alors, on était tous des chrétiens, et dans un des objectifs de la soirée, c'était aussi de faire quelque chose de très important, des grillades avec de la viande et des frites. Et donc, c'était en haut de la montagne, avec une vue sur le lac, le soleil couchant à l'horizon, une soirée magnifique. Le jeune a donc appris à couper la viande, parce qu'on ne la coupe pas n'importe comment. Par rapport aux frites, si l'huile est à 90 degrés, la frite n'est pas assez croustillante. À 190, il peut y avoir les vapeurs et il y a tout qui peut prendre feu. Mais à 160, c'est un peu l'idéal. Quand c'est quand l'huile, on a mis 3 litres d'huile, quand ça bout, c'est idéal. Et puis on a bien mangé, le soleil s'est couché, il faisait tout nuit. On a continué les discussions autour du feu, on a enlevé les casseroles en téflon. Et puis j'ai voulu me lever pour aller chercher un canif et je me suis renversé toute l'huile sur la jambe. Alors ça fait vraiment mal. On a l'impression que le corps fond. Chaque seconde paraît une éternité. Et du coup, j'ai essayé de me tenir le mollet et un bout de peau est venu avec. Et ça fait vraiment très mal. J'étais par terre, je criais de douleur. Et je comprends que certains sont mis dans le coma parce que c'est une douleur insupportable. C'est à rendre fou, quoi, vraiment. Et puis là, dans l'équipe, il y avait un directeur d'institution médicale. Puis il est tout tenu avec une trousse de premiers secours, un bandé, etc. Et puis il y avait aussi un autre chrétien qui a pris autorité et qui a demandé que j'aie pas la douleur qui est liée à ça. Alors moi j'étais par terre, j'avais mal, je criais, voilà. Et quand il a prié avec autorité, ben, j'ai senti que ça allait un peu mieux, j'ai cru ce qu'il avait dit. Et après ben, je suis rentré, donc je suis rentré en voiture depuis la vallée de Joux. Et puis je me suis endormi, et puis le lendemain matin... c'était samedi, donc le samedi nous on va faire nos courses. Alors on a été faire les courses, puis je me suis dirigé à la pharmacie l'après-midi, parce qu'au fait j'avais pas mal de, vous savez la brûlure quand on reçoit un coup de soleil, en général on a toujours un peu mal, et puis là la brûlure est au deuxième degré, donc on voit les couches quand j'ai tiré, c'est un peu la couche, c'est comme le poulet. Puis après il y a la vraie couche, quoi. Et puis, étant donné que j'avais pas mal, on a été faire les commis. Puis quand on est arrivé à la pharmacie, je voulais avoir un bout d'une pommade ou quelque chose, voilà. Et la pharmacienne, elle m'a fusillé du regard. Elle m'a dit, mais vous allez, monsieur, tout de suite à l'hôpital et je ne vous donne rien du tout. Je ne prends aucune responsabilité par rapport à ça. Et en arrivant à l'hôpital, c'est quand même quelque chose d'assez grave au niveau de la blessure, donc j'ai dû aller au CHUV, j'y retourne d'ailleurs j'espère demain pour la dernière fois, mais je peux vraiment témoigner que le mal de cette sensation de brûlure permanente a été enlevé au nom de Jésus. Et j'ai pu témoigner avec les infirmières, je voyais très très bien leur réaction des fois quand je disais non mais moi j'ai prié au nom de Jésus, quand on me disait des alternatives. Et ça m'a donné une ou l'autre fois des bonnes discussions. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est pour dire que Dieu guérit encore aujourd'hui. J'en suis la preuve vivante. La blessure est là, mais la douleur qui est connue pour les brûlés, Dieu l'a guérie. Et j'aimerais vous lire Marc 16, 17 et 18, qui dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Amen.
Merci déjà pour ton témoignage. Et quand quelqu'un témoigne comme ça de ce que Dieu a fait dans sa vie, donc dans son cas aussi d'avoir quasiment enlever la douleur instantanément. Et ben nous qui l'entendons, ça augmente notre foi, ça augmente notre espérance et puis ça ouvre quelque chose en nous. Et puis il y a aussi un impact dans le monde spirituel de rappeler les victoires de Jésus et je suis persuadée qu'il y a quelque chose qui se libère et il y a quelque chose qui s'ouvre pour d'autres aussi. Et je crois que Dieu du coup il veut aussi en guérir d'autres ce matin, il veut aussi enlever la douleur chez certaines personnes et puis c'est aussi un témoignage que justement Dieu il est encore vivant, il agit encore aujourd'hui et puis pas seulement pour Élie mais il veut le faire aussi dans la vie d'autres personnes. Et on va peut-être prendre un temps maintenant pour prier spécifiquement pour des personnes qui ont besoin de guérison. Ça peut être de la douleur, ça peut être en fait toute forme de guérison, ça peut même être une guérison du cœur. Du coup, ce que je vous encourage à faire, c'est qu'on va tous pouvoir se lever maintenant. Et puis, les personnes qui ont spécifiquement besoin de prière justement pour la guérison, vous pouvez lever votre main. Et puis les personnes qui vous entourent, qui sont autour de vous, elles vont pouvoir prier pour vous. Et puis avant ça, je vais encore juste laisser Élie prier aussi pour la guérison, parce que du coup, lui, il a aussi sa foi qui est boostée, parce qu'il a été témoin de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et puis du coup, qu'il puisse aussi prier pour nous, pour vous. Et puis après, qu'on prenne ce temps en petit groupe, juste pour libérer la guérison. Et pour, voilà. Puis s'il y a même des témoignages suite à ça, et on laissera sûrement la place aux témoignages.
Merci Seigneur parce que tu nous as aimés. Merci parce que tu le montres par ta création, tu le montres par des actions. Et merci parce que tu es mort et ressuscité pour chacun de nous. Tu nous as sauvés, mais tu es un Dieu vivant et tu le manifestes encore aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment te prier parce que à la croix tu as pris toutes nos maladies et tu es ressuscité. Tu es venu sur la terre pour prendre tous nos échecs, toutes nos souffrances, toutes nos cassures, et tu les as apportées à la croix, et tu es ressuscité. Et on n'est pas en train d'adorer un Dieu mort, mais on est en train d'adorer un Dieu vivant, et qu'il le montre encore aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment te prier, au nom de Jésus, que toutes les maladies soient guéries aujourd'hui. J'aimerais vous demander que vous mettiez votre main là où vous êtes malade, et au nom de Jésus, je proclame la guérison maintenant. Au nom de Jésus, la guérison maintenant. Amen.
Amen. Vous pouvez lever les mains, du coup, ceux qui ont besoin spécifiquement de prière, les personnes autour d'eux, demandez-leur peut-être pourquoi c'est. Ne les touchez peut-être pas comme ça, mais demandez la permission, peut-être juste de mettre peut-être votre main sur leur épaule ou comme ça. Et puis, n'hésitez pas à leur demander après s'ils peuvent le confirmer, s'ils peuvent voir si ça va mieux ou s'ils ne voient pas de différence, demandez-leur. Et puis, si ça ne va pas mieux, repriez encore derrière. Donc voilà. Alors, entourez seulement les personnes qui lèvent la main maintenant. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent vérifier et qui sont témoins d'une amélioration, d'un changement, d'une guérison ou qui ont été touchées d'une manière ou d'une autre et qui ont envie de le partager ? N'hésitez pas, même si c'est prochain jour ou comme ça vous voyez une différence, à vous approcher de nous. C'est toujours tellement encourageant d'avoir des témoignages. Et puis on ne se laisse pas décourager si on n'a pas senti une différence tout de suite, parce que Dieu, il peut aussi le faire par la suite. Et puis on est aussi appelé à persévérer dans la prière. Je vais directement continuer avec un témoignage personnel que du coup j'avais à cœur de vous partager ce matin. Je m'appelle Shelley Guyat. Pour certains, vous n'aurez pas entendu le témoignage beaucoup de fois, mais par contre, ce que je vais dire en premier, oui, je pense. Mais ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé d'enseigner au CPNE, donc dans une école professionnelle aux ASSC. Et puis, la manière dont j'ai eu ce travail a été vraiment miraculeuse. Vraiment, enfin, une fois, vous pouvez en parler avec moi, mais c'est beaucoup trop long. Il y a eu beaucoup trop de choses. Mais Dieu a ouvert la porte d'une manière miraculeuse et je savais que c'était le bon endroit. Pour dire que j'avais vraiment peu d'expérience quand ils m'ont engagée, c'était vraiment juste que j'aille là-bas en ce temps-là. Et puis... L'année passée, en fait, on m'a proposé un CDI, mais que j'ai malheureusement pas pu accepter parce que j'étais en voyage quand il y avait la semaine d'intégration. Donc mon directeur m'a dit, mon sous-directeur m'a dit que du coup c'était repoussé à cette année. Donc il me propose un CDI en fait cet été. Et puis la dernière semaine de cours, donc juste avant les vacances, c'était du coup en fin août début juillet, j'étais enceinte de 3 mois et demi. Et puis, là, il y a eu un dilemme dans ma tête, parce que du coup, je n'avais pas encore signé mon CDI, et je me suis dit, ok, alors, il y a une option, c'est que je l'annonce avant d'aller en vacances, mais sachant qu'on sait comment c'est dans le monde du travail, il y a quand même un risque de ne pas me donner ce CDI, mais je n'étais pas forcément en paix avec ça. Et puis, autrement, je pouvais attendre et puis le dire à la rentrée, mais du coup, j'aurais été enceinte de 5 mois, et puis... j'étais pas en paix avec ça non plus. Donc, j'étais vraiment dans un dilemme. Alors, j'ai réfléchi de mon côté, je savais pas quoi faire, j'arrivais pas à être en paix. Et puis, j'en ai parlé un peu autour de moi. Alors, d'un côté, il y avait en fait les décisions qui pouvaient être guidées par la peur, dans le sens, mais non, mais attends la rentrée, et puis dis-le à ce moment-là, c'est dans tes droits. Et puis, d'un côté, je me suis dit, bon, je vais demander l'avis à ma maman, parce que je savais d'avance qu'elle allait me répondre. Mais elle a quand même prié. Puis, elle a vraiment ressenti qu'il fallait que je sois transparente. Et dans sa réponse, il y avait énormément de paix, pas du tout de peur. Et puis, elle était hyper confiante. Et puis, elle m'a dit, mais en fait, si Dieu il a ouvert la porte, il peut vraiment continuer de l'ouvrir. Du coup, j'étais quand même plus en paix avec ça, mais j'avais quand même peur, vraiment. Et du coup, j'ai pris rendez-vous avec ma directrice, que je ne connaissais pas trop. Ce n'est pas elle qui m'a engagée, ce n'est pas elle qui a choisi de m'engager. Je me suis dit, purée, je ne suis pas du tout légitime d'être en face d'elle. Mais je me suis dit, je lui dis ce qu'il y a sur mon cœur. Je lui dis que je l'avertis avant parce que j'avais envie d'être transparente avec elle. Et puis là, elle a eu une réaction assez étonnante parce qu'elle a été vraiment très touchée par ma transparence. Puis elle m'a dit qu'elle avait envie de célébrer la vie, puis qu'en fait j'allais signer mon CDI en ayant un petit ventre. Et puis en fait elle m'a dit que ça ne remettait pas du tout en cause mon contrat, puis elle m'a dit c'est exactement ce que j'ai envie, c'est qu'on puisse me dire honnêtement les choses et être transparent avec moi. Donc en fait c'est exactement ce qu'elle attendait. Et j'ai senti aussi que du coup entre nous il y a un lien de confiance qui s'est créé, et il y a vraiment un contact aussi qui a pu changer avec elle. Et je me suis dit, mais ça m'a juste rappelé que quand Dieu il ouvre une porte, il est vraiment plus puissant que tout ça, et puis il peut continuer de l'ouvrir, et puis aussi qu'il récompense vraiment notre intégrité et notre honnêteté. Et puis en fait des fois on peut laisser plus de voix à la peur, mais en fait quand Dieu il dit quelque chose, ou quand Dieu il nous met quelque chose à cœur, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et puis lui, il prend soin vraiment de ça. Donc c'était juste un témoignage pour dire de rester vraiment attachés à nos valeurs. Dieu, il est là avec nous, de ne pas laisser de la place à la peur. Et puis, quand on a une conviction, quand on est en paix avec quelque chose, parce que finalement, j'étais quand même en paix avec ça, eh bien, il nous suit, vraiment. Enfin, il ouvre la porte. Donc voilà, c'était un petit témoignage pour vous encourager.
Trop bien, merci beaucoup, Shelley. Dieu honore, Dieu bénit. Quand on est dans ses valeurs, c'est vraiment extraordinaire. Du coup, vu qu'elle a parlé de ses pensées d'inspiration de Dieu, de sa maman, je vais donner la parole à sa maman. Et puis, bienvenue Isabelle, Robert.
Bonjour à tous. Alors, quand mardi après-midi, j'ai reçu le message de Diane, j'avais une notification sur mon attel quand j'étais à l'hôpital vers ma maman. Ma première pensée a été, mais je suis trop chargée et je suis en vacances. Bon, j'ai continué ma visite à l'hôpital, puis en sortant de l'hôpital, je me suis dit, mais est-ce que c'est une bonne excuse d'être chargée et en vacances pour pas témoigner ? Donc dans mon cœur, j'ai tout de suite eu la réponse que oui, je voulais témoigner aujourd'hui. Je vais commencer par le message de Shelley qu'elle a donné en début juillet. Donc elle a parlé des priorités et puis elle a dit que je faisais une petite to-do list chaque jour avec donc la to-do list du jour, mais dans l'ordre de priorité. Et en fait, depuis mi-juin, je mets une petite croix dans l'angle de ma feuille. Et j'aimerais vous expliquer qu'est-ce que c'est cette petite croix que je mets chaque jour dans l'angle de ma feuille. Vers mi-juin, avec mon mari Stéphane, on a regardé un film incroyable de la vie de Tim Timmons. Donc c'est un chanteur du groupe Mercy Me. Et ce film, il nous a vraiment impacté. Et donc dans le contexte, ça se passe en 2001. Il apprend qu'il est atteint d'un cancer du foie. Il apprend presque en même temps que sa femme est enceinte de leur premier enfant. Et les médecins lui donnent 5 ans à vivre. Et chaque matin, il fait une croix sur son avant-bras, sur son poignet. Puis après, elle s'atténue la croix au fil du jour, mais tous les matins, avec un gros stylo, il fait sa croix sur son poignet. Et en fait, c'est comme un ancrage, ça représente la foi et la gratitude. Et chaque matin, il faisait cette croix pour se rappeler de déposer ses fardeaux au Seigneur, de lui faire confiance, puis en même temps d'avoir cette gratitude, d'avoir cette reconnaissance de la vie et vraiment de lui dire un grand merci pour ce que Dieu est. Donc chaque matin, je dis, Seigneur, j'aimerais vivre dans cette foi et cette gratitude. Alors cette croix, elle me rappelle tous les matins cela. Et puis, donc, dans ce film, il écrit un chant. Donc, je vais l'appeler Tim, c'est plus simple. Tim écrit un chant. Et puis, en fait, il l'écrit au cœur de sa souffrance. Et c'est un chant incroyable. Et il m'a tellement rejoint dans plein de domaines, ce chant. Puis, à un moment donné, dans ce chant, il dit, « Il suffit d'un petit peu de foi pour déplacer une montagne. » Mais si Dieu choisit de laisser les montagnes immobiles, donne-moi la force. Donc il dit c'est à Dieu. Si tu choisis de laisser les montagnes immobiles, donne-moi la force. Et il dit aussi, mais je sais que tu peux, je sais que tu es capable. Mais même si tu ne le fais pas, mon seul espoir est en toi. Et ça m'a trop interpellée, parce que le titre du chant, c'est « Even if », donc « même si ». Donc ce « même si Dieu ne le fait pas ». Notre seul espoir est en lui. Et pour cela, j'ai un témoignage. Donc, au mois de mai, on a conduit ma maman au CHUV pour une 6e opération de la hanche. Et puis, c'était la dernière option qu'il pouvait y avoir. C'était un implant en titane qu'il devait mettre au niveau de son bassin pour consolider son articulation de la hanche. Et puis donc, on a prié, il y a eu plein de prières pour que son articulation soit solide, qu'elle puisse remarcher comme il faut. Il y avait vraiment de la foi, des prières. Et c'était une opération qui était lourde de conséquences parce qu'il y avait beaucoup de risques, soit d'infection, de perte de sang dans l'opération, au niveau de son cœur. Elle a 83 ans, mais donc il y avait des risques. Et le lendemain, quand j'ai reçu le téléphone des chirurgiens, ils étaient tellement contents, ils étaient quatre à avoir opéré, le professeur et trois autres. Ils étaient tellement contents, ils ont dit, mais il n'y a que 2 mm de différence entre les deux jambes. Tout s'est bien passé, elle a très peu saigné. Donc il n'y avait que des choses positives au téléphone. Donc on a loué le Seigneur, on était hyper reconnaissants. Et le lendemain, à son premier lever, avec le physio, elle a fait 2 pas. Et tout l'implant, tout ce qu'ils avaient mis, tout est remonté dans le bassin. Donc, elle a eu 3 semaines de douleurs atroces parce qu'ils ne pouvaient pas la réopérer, parce qu'il y avait le risque d'infection. Et elle a souffert à chaque mobilisation parce qu'il y avait les vis, l'implant, il y avait tout dans son corps qui était remonté. Donc, sa jambe, elle avait bien 10-15 cm plus courte. Elle était toute tordue dans son lit. Donc, c'était 3 semaines vraiment horribles. Et ce chant qui dit que même si Dieu choisit de laisser les montagnes immobiles qui donnent la force. Et donc, c'était vraiment pas facile. Puis, au bout de 3 semaines, il y a eu cette décision. Soit ils remettaient l'implant avec des plus longues vis et tout, mais ils n'assuraient pas du tout la chose. Ou alors, ils enlevaient tout. Et là, enlever tout, ça s'appelle une résection de Gillestone. C'est vraiment... il n'y a plus d'articulation. Donc, ma maman, c'est ce qu'elle a choisi. Elle a dit non, je ne recommence pas, si ça ne tient pas, je ne recommence pas encore 3 semaines et faire opérer pour quand même tout enlever. Donc, elle a choisi et on a choisi avec elle de tout enlever. Donc, après, elle a pu revenir assez rapidement sur le canton de Neuchâtel. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand on l'a amenée au CHUV, on était plein d'espoir, on s'est dit c'est pour consolider son articulation. Et au retour sur le canton, c'était le contraire. Il n'y avait plus d'articulation, donc l'espoir de marche était réduit à néant. Mais après, nous, on a beaucoup prié pour qu'elle puisse, en réadaptation, faire ses transferts, lit, fauteuil, parce qu'elle devait finir sa vie en chaise roulante. Donc, c'était vraiment misé sur les transferts. Et on a vraiment prié avec foi pour un retour à domicile. On a dit, Seigneur, on te prie pour qu'elle puisse rentrer à la maison, parce qu'il y a mon papa à la maison, il y a une maison qui est construite avec beaucoup de facilité pour les chaises roulantes, donc on a prié pour ce retour à la maison. Donc ma maman, elle a tout fait, elle s'est donné tout ce qu'elle pouvait, mais elle n'avait plus d'épaule, plus de bras, plus de jambes, l'autre jambe, parce qu'elle avait donné tellement d'efforts, parce que l'autre ne répondait plus. Et on a prié avec foi, et on a tout fait pour faire des modifications à la maison, pour vraiment faire tout pour le retour à la maison, c'était quand même son désir au fond d'elle. Et tout ça, à un moment donné, a devancé mes parents, parce que c'était beaucoup trop compliqué, il n'y avait pas assez de sécurité, c'était trop. Alors on a dû prendre la décision qu'elle allait en institution. Donc ça, la décision a été faite il n'y a pas longtemps. Donc c'est comme si ces montagnes, elles restent immobiles. Mais Dieu, on savait qu'il pouvait, qu'il était capable, mais même s'il ne le fait pas, donc comme la chanson « Even if », même si il ne le fait pas, notre espoir reste en lui seul. Donc maintenant on prie, parce qu'elle a fini sa réadaptation, mais on prie pour qu'elle ait la meilleure place en institution. Donc voilà, là on prie avec foi qu'elle ait la meilleure place. Mais donc c'était pour imager ces paroles de ce chant qui m'ont tellement impactée, parce que souvent on dit, mais Dieu il déplace les montagnes, Dieu il suffit d'un mot et la situation change. Mais even if, même si, Dieu est souverain. Et les voies de Dieu sont souvent au-dessus des nôtres, son plan est plus vaste, il connaît la situation. Et puis mardi, quand j'ai reçu le message de Diane, j'étais justement vers ma maman. Et ce jour-là, on a parlé, on a pleuré, on a prié. Et je lui ai rappelé la croix en disant, on va rester dans la foi et la gratitude. Et je venais de lire un ou deux jours avant dans le psaume 92, ils portent encore du fruit dans leur vieillesse. Et c'est vrai qu'au fil de toutes ces semaines où ma maman, c'était dur pour elle, Mais elle a eu un témoignage tellement incroyable. Il y a même des soignants qui venaient vers elle et qui lui disaient, mais qu'est-ce que vous avez d'être autant confiante, d'être autant en paix, d'être autant forte? Et puis elle pouvait chaque fois dire qu'elle croyait en Dieu et que c'est Dieu qui l'aidait. Et je me dis, ben, dans les difficultés, on peut être des témoins, on peut porter du fruit. Et puis, en lien avec ça, aujourd'hui, on ne devrait pas être ici avec Stéphane parce qu'on est au plein milieu de nos vacances. Donc, on avait prévu aller du côté de l'Atlantique. Mais je n'étais vraiment pas en paix de partir dans ces circonstances. Et j'ai dit au Seigneur, je n'étais vraiment pas en paix. Je lui ai dit, mais je te donne nos vacances. Et le jour d'après, j'ai eu de la paix. Et le jour d'après, Stéphane m'a dit, mais non, c'est pas, il faut, notre place est de rester ici. Et je le remercie vraiment pour sa sagesse, pour sa sensibilité, parce qu'on en avait besoin de ces vacances, ça nous aurait fait du bien, puis je savais que c'était important. Mais il a pu dire, non, notre place, elle est ici. Donc voilà, on ne devrait pas être ici. Mais puis en même temps, le Seigneur, quand je disais que ses pensées ne sont pas les nôtres, il savait aussi que notre fils cadet, qui est au Brésil maintenant pour son, dans le cadre de ses études, il y a un ou deux dimanches en arrière, il était à Rio, et puis il avait commandé un taxi, puis il prend son attel pour regarder où le taxi arrivait, et il y a un motard qui est arrivé par derrière et qui lui a pris son attel, et Danaël, le temps qu'il réalise, le motard était déjà à 20 mètres. Et en voyage, dans un pays étranger, il y a tellement d'applications sur le Natel. Avec ça, il pouvait commander les taxis, il y avait les doubles authentifications, il pouvait se connecter à l'EPFL s'il y avait besoin. Et en fait, son Natel, c'était hyper important pour lui là-bas. Donc, le fait qu'on ne soit pas parti en vacances, on a pu gérer depuis la Suisse, c'était plus facile pour stopper les différentes cartes, les différentes choses. Stéphane lui a renvoyé une carte SIM, on lui a renvoyé un attel, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait depuis la Suisse, donc on s'est dit, ben voilà, il y avait une raison pourquoi on devait rester ici. Parce que quand je fais ma petite liste de priorités chaque jour, je dis souvent au Seigneur, mais que je puisse accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. Puis là, je me disais, dans le cadre de ces vacances, ben, le Seigneur, on accomplit les œuvres qu'il a préparées d'avance, parce qu'on a pu aider Danaël depuis ici, c'était plus facile. Puis une autre chose, c'est que en fait, on voulait partir à l'Atlantique, mais aussi dans le bassin d'Arcachon, où il y a eu tous ces incendies. Et voilà, le Seigneur a permis qu'on reste ici, mais pour plusieurs raisons, on a compris pourquoi on était resté ici. Je fais un peu long, mais et j'ai beaucoup de choses à dire. parce que je vais reprendre ce chant, et puis à un moment donné, il dit... dans ce chant, il dit « Jésus, je m'accrocherai à toi quoi qu'il arrive. » Et ça m'a trop aussi impactée parce qu'il y a bientôt 2 ans, quand on m'a diagnostiqué un cancer du sein, il y a 2 choses que j'aimerais dire là. Quand on a reçu les résultats, on était avec Stéphane à la cuisine. J'ai vu que c'était le médecin, j'ai mis l'haut-parleur. Puis quand il nous a dit, ben, les cellules qui ont été analysées, elles sont cancéreuses, j'ai tout de suite vu l'image d'un berger qui tenait une brebis. Mais ce n'était pas un berger qui tenait une brebis, c'était Jésus qui me tenait. J'ai de la peine à expliquer l'image, mais c'est comme si je me sentais dans les bras de Jésus. Et ça m'a tellement rassurée. Et puis, en ne sachant pas encore tout ce qui allait découler de ce résultat de cellules cancéreuses, quand j'ai communiqué aux gens, j'ai des amis aussi, des amis non chrétiennes, j'ai pu tout chaque fois leur dire, je fais confiance à Dieu quoi qu'il arrive. Et dans ce chant que tu dis, je m'accrocherai à Dieu quoi qu'il arrive, ça m'a trop fait penser à ça. Et quelques semaines après, quand j'ai dû me faire opérer, en salle d'anesthésie, j'ai revu la même image de Jésus qui me tenait comme une brebis, comme un mouton, comme un berger. Et je me suis endormie en salle d'anesthésie avec cette image. Et au réveil, en salle de réveil, j'ai eu exactement la même image. J'ai eu 3 fois cette image, mais 3 fois, elle m'a tellement rassurée. Et à la fin des traitements, quand j'ai passé dans les différents services d'oncologie à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, on m'a chaque fois demandé, mais comment ça va? Est-ce que vous faites du souci par rapport aux récidives, par rapport au vécu après? Et chaque fois, je pouvais leur dire, je crois en Dieu. Et je lui fais confiance. Et vraiment, c'est pour ça que ce chant, il m'a inspirée de A à Z. Et puis, je crois que j'arrive à la... J'obtiens la conclusion. Peut-être que j'ai oublié quelque chose ou pas. J'ai dit au Seigneur, si j'oublie quelque chose, si je rajoute quelque chose, c'est dans ta main. Et en conclusion, je veux juste vous donner des nouvelles de Tim Timmons, comme je vous en ai parlé au début. En fait, il est toujours vivant. Il y a 25 ans de ça, ils ont eu 4 enfants. Il a dû se battre avec son cancer pendant ses 25 ans, parce qu'il l'a toujours, mais il est toujours vivant. Et il a pu continuer d'écrire des chants, il a continué de chanter, il a continué de servir Dieu. Et je trouve que c'est un témoignage incroyable, quoi, que Dieu l'a gardé. Et il avait dit aussi dans son chant, « Tu as été bon, tu as été fidèle tous les jours de ma vie. » En 2001, il disait déjà ça, quand il était dans ces épreuves. Et je suis sûre que maintenant, il peut leur dire encore, « Tu as été bon, tu as été fidèle tous les jours de ma vie. » Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc les voix de Dieu ne sont pas forcément les nôtres, ses pensées ne sont pas forcément les nôtres, mais il est capable, il peut, mais even if, même si il ne le fait pas, que notre seul espoir puisse rester en lui. Amen.
C'est vrai, c'est tellement important et ça fait tellement du bien de se le rappeler. Merci beaucoup. Je vais laisser Bernard me rejoindre, qui a aussi un témoignage à partager.
Bonjour à tous. Vous êtes beaux. Moi, je m'appelle Baudet. Baudet le matin, Baudet le soir. Je suis toujours beau. Alléluia. J'aimerais partager un moment. Nous sommes partis en vacances, nous avions un mariage à 600 km d'ici, donc en France. On a passé de merveilleux moments, on avait pris nos petites filles avec. Mathieu, mon fils, donc, et Priscilla travaillaient les deux, donc on a décidé de les prendre en vacances. Alors, les enfants, vu mon âge, ils ont dit, t'es sûr, papa, de pouvoir conduire tout. Oui, oui, oui. Donc... Après, on est allé au bord de la mer, on a dit, puisqu'on n'est pas trop loin de l'Atlantique, alors pour dire, on est quand même allé en Atlantique en Vendée, et on a passé des bons moments avec nos petites filles, c'était super, c'était génial. On devait refaire encore, retourner vers un neveu qui fêtait ses 60 ans, qui nous avait invités du côté de Troyes. Donc on devait repartir de là. Ça nous a fait, on a fait en tout 2170 km en 12 jours. Et en arrivant pour ses 60 ans, on avait fait toute la journée, donc j'ai conduit toute la journée, ça faisait 8 heures de route. On s'est reposé, Mathieu est revenu, on avait un logement ensemble, c'était super. Et puis on s'est reposé un moment pour repartir, c'était la soirée, en même temps qu'on avait fait toute la journée de conduite, c'était la soirée jusqu'à 2h, 3h du matin, on était ensemble. Mais juste avant... Priscilla avait mis un mauvais... elle avait mis sur le GPS l'adresse où habitait le neveu au lieu de prendre l'adresse où nous devions aller. Donc en route, à un moment donné, Mathieu est allé dans un petit chemin pour rebrousser chemin. Donc on est allé dans une bifurcation perpendiculaire à la route. Et puis lui, il sort. Puis moi, je regarde à droite. Les voitures étaient très loin. J'ai dit, je peux y aller, mais le côté gauche, c'était aussi une erreur de ma part. Est-ce que j'ai regardé à gauche? Je ne sais pas. Je sors de la route, une route à 80 à l'heure étroite, et je me trouve au milieu de la route en travers, et je vois deux voitures arriver à 80 à l'heure. Une passe devant moi, je vois l'autre derrière, je me dis, mais... J'étais là au milieu, Chantal qui a crié un petit coup. Et là, je dis, mais... Et Mathieu qui était devant, il a vu tout dans le rétro. Il a dit, c'est fini. On était pris ensemble, en plein fouet. Je me suis dit, mais... Après, j'ai réalisé pendant toute la soirée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'on a été gardé comme ça? Bon, on priait tous les avec les petits-enfants et tout, on priait ensemble pour la journée, on mettait la conduite, surtout quand on fait 700 km, on a prié pour que le Seigneur nous garde, etc., etc. Puis pendant la nuit, je t'ai réveillé deux fois, ça me touche. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé là? Comment on a pu être gardé comme ça? Je me demande si les voitures étaient téléportées, parce qu'il y a quand même des fossés de chaque côté des routes. Et les voitures ont passé, et puis je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont eu des accidents? Après, je n'ai pas réalisé sur le moment. On a continué la route. Je me suis dit, est-ce qu'ils ont eu des accidents, etc. Mais il n'y a rien eu. Je me suis dit, mais c'est impossible, humainement. Mais j'ai béni le Seigneur, mais pendant deux jours, je pleurais devant Dieu. Je me suis dit, mais Seigneur, merci, merci. Quelle grâce. Et j'ai ce passage dans Romains 8. Romains 8 est tellement... Il fortifie notre foi. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et plus loin, il est dit... Mais dans toutes ces choses, au verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, pardon, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous avons un Dieu qui est vivant, qui est puissant, qui est merveilleux. Et que notre foi soit vraiment fondée sur sa parole. Dans sa parole, il n'y a que des promesses. Et accrochons-nous à ses promesses. Restons dans ses promesses. Dieu est là, il est merveilleux. C'est un Dieu merveilleux. Et ouais, je pourrais citer plein de témoignages, mais je pense que le temps est court. Je vais m'en arrêter là. Mais ouais. J'ai vu dans ma vie, vraiment, maintenant j'ai 82 ans, mais j'ai vu vraiment des choses se passer merveilleuses, malgré les détresses, comme l'a dit notre sœur, malgré les choses compliquées qui arrivent, faisons confiance, confiance dans sa parole. Piochons sa parole, méditons sa parole, c'est ça qui fortifie notre foi. Et c'est ce qu'on fait chaque jour, voilà. Amen.
Combien de kilomètres?
J'ai dit 2170.
En tout. Alors, tout s'est bien passé, le reste. Merci, Seigneur, hein, parce que c'est vraiment un bon conducteur, mon mari.
Oui, franchement, chapeau pour tous ces kilomètres, hein, parce qu'on sait à quel point c'est fatigant, à quel point il faut rester concentré, à quel point il faut avoir un copilote aussi... présent, qui parle, qui met de la bonne musique. Bravo en tout cas, et puis merci Seigneur, c'est tellement encourageant, et puis il nous protège, ouais, vraiment. Je vais appeler Gaël maintenant. Gaël Pecoraro, voilà, qui vient. On se réjouit aussi de l'entendre, c'est tellement bon d'entendre tous ces témoignages.
Merci Chélie. Voilà, donc bonjour à tous, je m'appelle Gaëlle et j'aimerais vous partager un témoignage, donc ce dont j'étais témoin cet été. Alors, j'ai eu la joie de diriger un camp de vacances pour les enfants et les adolescents d'origine juive qui s'appelle le camp Gilgal. C'est en fait un camp juif messianique. Alors, peut-être que certains se demandent qu'est-ce qu'en fait un juif messianique. Alors, en fait, c'est une personne juive qui croit que Jésus, Yeshua, est le Messie promis dans les Écritures. Et donc, un juif messianique, eh bien, c'est quelqu'un qui continue à vivre son identité juive et tout en suivant Jésus, le Messie. Alors, pourquoi le nom du camp Gilgal? Alors, dans la Bible, Gilgal, eh bien, c'est le premier campement du peuple d'Israël après la sortie d'Égypte, une fois qu'il a traversé le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Et c'est là que Dieu déclare aujourd'hui, j'ai enlevé de vous la honte que vous avez rapportée d'Égypte. Alors Gilgal, ben, c'est un nouveau départ, c'est un lieu d'une alliance renouvelée avec Dieu, et c'est justement cette vision de ce camp. Accompagner ces jeunes dans leur cheminement pour qu'ils puissent faire un pas de foi vers le Dieu d'Israël et rencontrer le Messie promis, Jésus. Alors, durant ce mois de juillet, eh bien, pendant 2 semaines, nous avons accueilli 25 enfants et adolescents qui sont venus de France, de Suisse et aussi d'Israël. Et donc, on a étudié la Bible, on a étudié les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. On a chanté des chants de louange en hébreu, en français. On a un petit peu appris l'hébreu aussi. On a fait des activités sportives et puis des moments de communion. Mais surtout, nous avons partagé la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, je ne vous cacherai pas que ce camp, eh bien, il a été marqué par un véritable combat spirituel. Ça a été très difficile des fois, il y a eu des moments de découragement, il y a eu des fois certaines situations très difficiles avec des jeunes et notamment aussi avec un parent. Et à plusieurs reprises, eh bien, je me suis sentie un petit peu découragée, dépassée en tant que directrice, et je vous avoue qu'à plusieurs reprises, eh bien, je me suis mise à pleurer parce que voilà, on n'est pas parfait, mais c'est souvent en fait dans ces moments-là, quand on pense qu'on arrive au bout de nos forces, eh bien que Dieu choisit de manifester sa puissance. Je vais vous raconter une petite anecdote. Par exemple, Sarah, donc une jeune israélienne francophone de 12 ans, donc, qui est venue au camp Gilgal pour la première fois. Et en fait, dès qu'elle est arrivée, elle nous a dit « Moi, je n'ai pas envie d'être ici, je veux rentrer chez moi ». Et donc, elle nous l'a vraiment fait comprendre. Ça veut dire que, ben, elle participait pas aux activités, elle refusait de venir au rassemblement, elle répondait aux animateurs. Et puis, donc, son attitude, eh ben, créait beaucoup de tensions et elle crée aussi la division parmi le groupe des filles. Et donc, on a aussi découvert qu'elle regardait aussi chez elle beaucoup de films d'horreur. Donc, c'était assez chargé. Et donc, on a vu chez elle que voilà, tout ça s'était marqué beaucoup par la révolte, par la colère. Et malgré de nombreuses discussions avec elle, avec les animateurs et tout, eh bien, on avait le sentiment qu'on se heurtait à un mur avec cette jeune Sarah. Et donc, après quelques jours seulement, eh bien, on a pensé à la renvoyer chez elle. Donc, on était au point d'organiser son départ du camp. Mais Dieu avait un autre plan. Un soir, nous avons regardé ensemble le film La Forge. C'est un film chrétien. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu ici, mais je vous encourage vraiment à le regarder. Ça s'appelle La Forge. Et donc, ce soir-là, Dieu a commencé à agir dans le cœur de Sarah. Son attitude a peu à peu changé. Elle s'est ouverte, elle a accepté de participer aux activités et surtout, eh bien, elle s'est laissée aimer. Elle nous a confié une partie de son histoire, donc elle a commencé eh bien, à parler avec nous, avec moi. Elle nous a dit que voilà, c'était difficile avec la guerre en Israël, ça l'avait marquée. Et donc, on a vu qu'elle avait vraiment changé d'attitude du jour au lendemain. Et donc, on a décidé eh bien, d'annuler son départ et de lui laisser une seconde chance. Et donc, à votre avis, qui a accepté Jésus comme son Messie à la fin du camp ? Ben oui, c'est Sarah, avec 2 autres jeunes, David et Ruben. Sarah a levé la main pour accepter de suivre Jésus, Yeshua, pour la première fois. Et ce sont justement avec ces 3 enfants que nous avons le plus de combats. 18 autres enfants ont renouvelé leur engagement avec Jésus et 4 se sont abstenus. Alors, quand je repense à ces moments où c'est que nous étions convaincus que tout était perdu, eh bien, en fait, c'est à ce moment-là qu'on voit que nous, on ne peut pas faire, mais que Dieu, lui, il peut tout faire. On peut changer les activités, on peut prier, on peut fixer un cadre avec les jeunes, les enfants, mais seul le Saint-Esprit, en fait, peut agir pour transformer les cœurs.
Alors, j'aimerais vous partager ce verset qui a pris tout un sens pour moi cet été, qui dit dans le psaume 126, 5, 6, « Ceux qui sèment dans les larmes récoltent en chantant. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec joie chargé de sa récolte. » Alors, je peux vous dire que durant ce camp, on a semé dans les larmes. Mais cet été, nous avons eu la joie vraiment de voir ces trois jeunes qui suivent Jésus, leur Messie. Alors, si aujourd'hui, vous traversez une période difficile, ne vous découragez pas. Continuez à aimer, à servir, à prier et à semer avec fidélité. Parce que Dieu, en son temps, fera lever pour vous une moisson, une bénédiction que vous ne pouvez pas voir encore. Parce que Dieu est le Dieu qui change le mal en bien. Merci à tous.
Merci beaucoup, Gaëlle. Excellent. Et encore un dernier témoignage avec Chloé, qui va nous partager aussi quelque chose. Elle a cours. Et puis on l'encourage aussi.
J'étais pas totalement préparée. Bonjour tout le monde. Du coup, je fais un petit témoignage. Au mois de mai, je suis allée à Marseille une semaine en vacances. Et je prie toujours pour avoir des rendez-vous divins. Il se passe quelque chose avec le Saint-Esprit. Et il y avait le vendredi, j'avais donc réservé une croisière pour aller visiter les Calanques. Et c'était une nouvelle proposition de la ville. Du coup, c'était pas très bien indiqué où partait le bateau pour cette expédition. Et puis, quand j'arrive au vieux port, en fait, les marins sur place, ils m'envoient du mauvais côté. Et le temps que je réalise que le bateau, en fait, partait à l'autre bout, puis que je revienne, j'ai raté le bateau. J'ai vu le bateau partir comme ça devant mes yeux. J'étais vraiment déçue parce que j'avais mon pique-nique dans le sac à dos, j'avais pour écrire, pour passer toute la journée sur mon bateau. Et j'ai eu 10 minutes de combat intérieur où je me suis dit, mais je suis trop fâchée d'avoir raté ce bateau. Qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Et puis d'un coup, ça m'a fait tilt. J'ai dit non, mais ça, parce que normalement, je rate jamais un train, je rate jamais un bateau, rien. Et là, je me suis dit, c'est tellement spécial, et c'est un coup du Saint-Esprit, ça, c'est sûr. Donc là, quand d'un coup, je me suis dit, Saint-Esprit, quel est le planning aujourd'hui si je n'ai pas pu aller sur mon bateau? Et puis en fait, depuis le vieux port de Marseille, on voit la grande église qui est donc Notre-Dame de la Garde, tout en haut. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu vas aller là-haut. Donc, ni une ni deux. Je suis montée, puis il faut savoir que c'est pas mal pentu pour accéder à l'église. Et puis j'ai dépassé tout le monde. J'avais l'impression que c'était plat, tellement j'avais d'énergie. Donc, je suis arrivée en haut comme une fleur. Et puis là, il y a un peu un jardin autour qui entoure l'église. Le Saint-Esprit m'a dit, mais va te poser dans le jardin un peu derrière où il y a les petits sentiers. Et je me suis trouvée un spot. Donc, je me suis installée, j'ai pu écrire, j'ai mangé mon pique-nique. J'avais une vue trop belle sur Marseille et la mer. Et là, il y a un vieux monsieur qui monte le sentier et je vois qu'il me voit et il m'adresse directement la parole. Il me dit, mais est-ce que vous êtes en train de dessiner? Puis je dis non, j'écris. Puis il me dit, mais est-ce que je peux venir vers moi? Donc il a eu un petit peu de peine à accéder jusqu'à mon spot parce que je m'étais vraiment mis sur des rochers pour bien surplomber le coin. Et en fait, il s'asseyait à côté de moi et là, on discute. Et on est resté ensemble 5h30 de temps. Et là, il m'a déballé toute sa vie, tout ce qu'il avait fait. Et en fait, j'attendais le moment. Je me suis dit, oui, ça va venir, je vais pouvoir lui parler avec le Saint-Esprit. Et puis il me dit, oui, hier soir, j'ai des locataires, parce qu'il faut savoir qu'il a plein de bâtiments à Marseille. J'ai des locataires, je suis allée leur rendre visite, ils ont prié pour moi. Tu vois, c'est ces évangélistes-là. Puis je me suis dit, ah ouais, bon, je suis tout simplement la suite. Donc ça a été vraiment facile. J'ai dit, moi, voilà, je suis la suite à ça. Et on va pouvoir prier ensemble. Donc on a prié pendant une heure. Donc c'était assez long et là il a pleuré, donc heureusement j'avais mes mouchoirs prêts à tout. Donc il s'est repenti et sa vie n'avait, il a vraiment fait plein de conneries, vraiment une tournure dans sa vie de solitude. Et je l'ai écouté, c'était vraiment beau parce que le Saint-Esprit a directement agi profondément et il a dit mais c'est vrai, je veux un changement, c'est maintenant. Donc c'était hyper bien parce que hyper facile. Du coup on a passé vraiment un bon temps ensemble jusqu'à la soirée. Et voilà, il s'appelle Franck, c'est un marin. Et j'ai pris une photo, bah, si j'avais été à peine plus préparée, je vous aurais montré la photo de nous ensemble. Il était vraiment joyeux. Et voilà, je vais encore prier pour lui parce que Dieu est souverain dans sa vie. Et merci Seigneur pour cette rencontre et que je sais que tu prends soin de Franck. Donc voilà un petit témoignage de vacances.
Ce que je propose, c'est que le groupe de louanges, vous pouvez peut-être venir, on va prendre un dernier chant ensemble, mais avant ça, alors qu'ils viennent, j'aimerais vraiment prier par rapport à ça. On a eu le témoignage de Gaël, où trois jeunes se sont tournés vers le Seigneur, ce témoignage de Chloé aussi, où cette rencontre, où cette personne se tourne vers Dieu. Et j'aimerais, avant qu'on prenne un chant, je ne sais pas exactement lequel ils vont prendre, l'équipe, mais qu'on puisse penser maintenant à une ou l'autre personne de votre entourage qui ne connaît pas encore le Seigneur. Et j'ai envie de prier parce qu'on voit que des gens se tournent vers Dieu. Et alors qu'on vient d'entendre que quatre personnes ont trouvé le Seigneur maintenant par ces deux témoignages, j'ai vraiment envie de prier pour que des cœurs s'ouvrent. Et c'est le plus beau miracle qui existe, c'est quand des gens se convertissent. Et Seigneur, moi je te prie maintenant pour chaque personne de notre entourage, peut-être maintenant qu'on pense, et il y a plein de noms ici, je pense, qui sont sur les cœurs, qui montent vers toi. Et nous voulons proclamer le salut, nous voulons proclamer des rencontres, des cœurs qui s'ouvrent et qui entendent le Seigneur, des vies qui changent, des situations qui paraissent fermées comme un mur, comme cette Sarah, et finalement c'est la première à se convertir. Et Seigneur, moi je veux te prier pour des gens dans les familles, des enfants de personnes présentes ici, ou des conjoints, ou des familles plus éloignées, ou des voisins, ou des amis. Et Seigneur, moi j'aimerais proclamer des temps de salut, des temps favorables aussi où tu diriges pour des discussions, où le Saint-Esprit touche et convainc les cœurs. Et Seigneur, nous désirons moissonner cette moisson, parce que la moisson est mûre. Et Seigneur, nous prions pour tous les gens qui ne t'ont pas encore trouvé et qui nous entourent chacun d'entre nous. Les quelques personnes qu'on connaît, peut-être plus proches, qui ne te connaissent pas, nous te les remettons maintenant au nom de Jésus. Et que tu nous inspires dans ce qu'on doit faire, dire, prier ou ne pas faire. Et Seigneur, tu peux aussi tout à coup donner la suite, comme cet homme où beaucoup ont prié pour lui, mais finalement il y a eu un rendez-vous divin vers cette église-là au-dessus de Marseille. Et Seigneur, c'était le rendez-vous pour lui. Et toi, tu peux donner des rendez-vous sans nous aussi pour les gens qui nous sont proches. Et nous voulons proclamer ta faveur, Seigneur, et le salut pour ceux qui nous entourent. Amen.